Voilà. Si jamais il y a une permanence, son père, c'est Martha Favre, est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'il y a des jeunes qui voudraient la suivre en bas? Je regarde à l'étage s'il y a des enfants, des jeunes. Faites juste un signe de main, savoir s'il y a de la jeunesse. Personne en haut. En bas, y a-t-il quelqu'un qui voudrait suivre une animation avec Martha? Martha, tu as quelque chose de super pour ce grand ado. T'as envie d'y aller? Allez. Alors, sois super béni. Hein. Et puis, on invite maintenant notre Jean-Jacques Mélan, ancien pasteur. Sois béni. Tu as la parole.
Merci. Merci. Bonjour. Bonjour, chers amis. Ça fait toujours plaisir de se retrouver dans ce lieu de culte que nous aimons. Moi, j'aime ces respirations estivales, ces temps où nous pouvons vivre un temps de recueillement, de ressourcement au cœur de nos activités de l'été. Dimanche dernier, nous étions à Lim, à Saint-Pré, et puis il y a 3 semaines, nous étions à Poitiers, chez Flavien Negrini. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Et c'était un vrai plaisir que de vivre un culte avec lui dans une situation courageuse, pionnière, où j'ai d'ailleurs envie de le rejoindre une nouvelle fois. Voilà, merci pour la louange, c'était profond, vraiment ce qui convenait le mieux pour entrer dans la méditation que j'aimerais vous proposer ce matin et qui a ce titre-là, non, le voilà. Voilà le titre de la méditation, « Des richesses anciennes et nouvelles ». Lorsque nous sommes chrétiens, nous nous posons souvent des questions. Et d'ailleurs, ces questions sont apparues dans le temps d'introduction, dans la prière des uns et des autres et dans les informations que nous avons partagées. Alors, quelles sont les grandes questions que nous nous posons quand nous sommes chrétiens ? Quand viendra le royaume de Dieu ? Je l'attends impatiemment, ce royaume. Quand va-t-il venir ? Ou alors, mais où est-il ? Parce qu'on me dit aussi qu'il est déjà là, mais où et comment ? Comment voir le royaume de Dieu ? Pourquoi est-ce que le christianisme n'a pas bouleversé le monde ? Pourquoi y a-t-il encore tant de mal et tant de souffrance ? Ou alors une autre question, mais qui ? Qui est dans le royaume ? Qui est le peuple de Dieu ? Où se trouve l'Église ? Et puis une dernière question, pour être un vrai chrétien, est-ce que je dois être conservateur ou plutôt progressiste ? Est-ce que la foi chrétienne est dans la tradition ou bien dans la nouveauté ? Alors écoutez, voilà des questions substantielles qui certainement font l'objet de débats dans le cadre de vos chaumières. Et ce sera intéressant de vous écouter et puis d'entendre les différentes réponses que vous allez apporter à ces questions. Ce n'est pas mon propos ce matin. Je veux simplement vous dire que la Bible prend très au sérieux chacune de ces questions et en particulier, elle nous apporte des réponses. Et elle nous apporte des réponses dans le texte que je vais méditer avec vous qui est les paraboles de Matthieu 13. Alors, parabole de Matthieu 13. Là, j'ai juste un dia très rapide qui vous présente la structure de Matthieu. Vous savez, mais là, bon, c'est très technique. Vous savez que Matthieu a subdivisé son évangile en 5 grands discours. Et on le repère d'une manière très simple. C'est qu'à la fin de chacun des discours, vous avez cette expression « quand Jésus eut achevé ses instructions ». Donc on voit qu'il y a vraiment 5 grands discours qu'annonce Matthieu. Premier discours, le sermon sur la montagne, c'est le discours qui inaugure son ministère. Le deuxième discours, c'est le discours missionnaire de Matthieu 9 à 10. C'est le discours du choix des disciples, de l'envoi des disciples. Or, quand Jésus eut achevé de donner ses instructions. Le troisième discours, c'est celui que nous allons méditer aujourd'hui, les 8 paraboles. À vrai dire, nous n'en méditerons que 6, parce que nous n'avons pas le temps de faire les 8. C'est intéressant, il y a une progression. Le discours sur la montagne, ça s'adresse à tout le monde. C'est vraiment le discours qui annonce que Jésus est le nouveau Moïse. L'inauguration de son ministère. Ensuite, puisque le ministère est inauguré, il faut des témoins. Alors, on va envoyer les disciples. Puis ensuite, commencent les questions. Les questions que j'ai énumérées avant, alors il faut répondre à ces questions. Quatrième discours, la vie communautaire. C'est le discours où il est parlé du pardon, où il est parlé du fardeau à remettre. Parce que quand l'Église va se construire, eh bien, elle aura certainement des problèmes à gérer. Donc, comment les gérer? C'est le huitième discours, c'est le quatrième discours qui en parle. Et le cinquième discours, c'est le discours de la fin des temps. C'est la parabole du festin, les paraboles la fin des temps. Voilà. Matthieu 13, six paraboles pour dire le royaume des cieux. Alors, j'aime bien ces paraboles. J'aime bien leur enseignement. J'aime bien aussi le contexte dans lequel Jésus pose son enseignement. Ça se passe au bord du lac de Galilée. Et Jésus aime bien ce lac, puisqu'il a opté pour vivre à Capernaum. Alors voilà deux images du lac. Une image bucolique, paisible, d'un lac qui en général est en effet calme et paisible, mais parfois il se traduit, il s'appelle même mer de Galilée, et il peut avoir parfois des tempêtes. Voilà les barques traditionnelles de l'époque de Jésus. On en a retrouvé une d'ailleurs dans les vases du lac qui étaient magistralement conservées. On a retrouvé une barque qui date du temps de Jésus. Et là, vous êtes à Capernaum. Donc quand la foule s'est rassemblée pour écouter Jésus, la foule s'est rassemblée sur les cailloux que vous voyez là en face. La grève, la plage à la grève de Capernaum est constituée par des gros galets, puisqu'on est dans une région volcanique, il y a des gros galets, et puis c'est là que Jésus enseignait. Ensuite, le public. Alors le public, c'est une foule avide de miracles, avide du changement, la foule qui en a marre de la tutelle des Romains, et puis finalement une foule tout public, des gens hétéroclites, des adhérents, des disciples, mais aussi des ennemis, des adversaires, des enfants, des adultes, des hommes, des femmes, des gens de tous les métiers, des agriculteurs, des pêcheurs, etc. Le maître. Le maître, il faut sentir ce qu'il a de paradoxal, ce maître. Parce qu'il est totalement différent des autres maîtres. D'abord, il est jeune. Avouez qu'un maître de 30 ans, c'est pas très fréquent. En tout cas, dans la culture de l'époque. Maintenant, oui, on survalorise la dynamique de la jeunesse dans ses acquis technologiques. Ok. Mais j'entends, pour l'expérience de vie, c'est vrai que c'était pas évident d'imaginer qu'un maître de 30 ans, qu'un homme de 30 ans puisse être un maître. Ensuite, Jésus est un prédicateur modeste. Il n'a pas de prestige, il n'a pas de patrimoine économique, il est jeune, j'ai envie de dire trop jeune pour être pris au sérieux. Ensuite, il n'a pas de résidence. Vous savez, hein, c'est important, les prélats, les patriarches aiment bien avoir des résidences qui marquent sur la pierre le prestige qui leur est dû. Jésus n'a pas de résidence, il déambulait d'une région à l'autre, il se plaisait dans une ville malfamée, la ville de Capernaum qui est une ville frontière, et toutes les villes frontières sont en général malfamées. Jésus craignait Jérusalem, il devait bien y aller, mais il la craignait. Bref, un rabbi étonnant, incapable de cataloguer, ni un zélote, ni un pharisien, ni un sadducéen. Curieux. La pédagogie du maître est aussi très étonnante. Il parle beaucoup en paraboles. Alors, c'est ce que je vais vous lire. Je vous lis les six paraboles que je vais méditer ce matin. Matthieu 13. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Il se rassembla auprès de lui de si grandes foules qu'il monta dans un bateau et s'y assit. Toute la foule se tenait sur le rivage et il leur parla longuement en parabole. Il leur proposa cette autre parabole. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères. Elle devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole, « Voici à quoi le règne des cieux est semblable du levain qu'une femme a pris et introduit dans trois portions séas de farine jusqu'à ce que tout ait levé. » Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ-là. Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un marchand qui cherchait de belles perles, ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un filet jeté dans la mer et qui rassemble des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied. On recueille ce qui est bon dans des récipients et on jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les mauvais du milieu des justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Vous avez compris? Ben, répondez. Les disciples ont répondu oui. Vous êtes des disciples, vous pouvez répondre oui. Vous pouvez répondre peut-être, vous pouvez répondre non. Non, mais écoutez, c'est beaucoup trop court tout ça. Jésus a mis une journée entière pour méditer, enseigner ses paraboles. Et vous, cruels comme vous êtes, vous m'imposez 25 minutes. C'est redoutable. 26. Mais Jésus a mis une journée entière, mais il vous faut prendre du temps pour écouter Jésus. Mais quand est-ce que nous retrouverons des cultes qui durent 4 heures, 5 heures? Le temps pour intégrer la profondeur de ce qui est dit. Ah, c'est important ça. Donc ils ont répondu oui. Ceci dit, Jésus donne la sixième parabole. C'est pourquoi tout scribe instruit du règne des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles, des choses anciennes. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Pourquoi parler en paraboles? Sans doute parce que son public était très hétérogène. Et il fallait une grande habileté pour intéresser tout le monde. Il n'est pas facile de captiver à la fois l'adolescent inquiet, la ménagère affairée, le critique érudit, et amener chacun à réfléchir. Comme une coquille de noix, la parabole protège, enfin comme une coquille de noix protège la vie qui est en son sein, la parabole permet de cacher et préserver le message qui va se révéler d'une manière progressive. Vous voyez, dans les paraboles, il y a quelque chose de mystérieux. Alors, les paraboles de Jésus aidaient à maintenir l'attention des auditeurs parce qu'ils se sentaient concernés dans leur champ d'activité. Ils savaient que poussés par la curiosité, ces auditeurs voudraient en savoir davantage. Jésus, par les paraboles, suscitait la soif plus que de les forcer à boire par des affirmations, des grands discours. Alors, ces six paraboles, ces petites histoires qui nous parlent du royaume de Dieu, je vais les visiter avec vous. La première répond à la question de l'attente du royaume de Dieu. J'ai énuméré les questions, vous vous en souvenez. Ce royaume de Dieu, est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il est là? On l'attend? C'est difficile de parler de la venue du royaume de Dieu. Parce qu'en fait, nous connaissons tous ces discours que l'on trouve dans les Écritures, dans le Nouveau Testament en particulier. Nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus. Il nous faut attendre et hâter l'avènement du jour de Christ. Et nous sommes invités à attendre la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre Seigneur. Donc, il y a chez le chrétien une attitude d'attente. Et en même temps, si on est fixé sur cette attitude d'attente, si elle habite tout notre espoir, tout notre espace spirituel, émotionnel, affectif, j'attends, je ne vis que pour l'attente, je vais être démobilisé dans mon quotidien. Et ma vie chrétienne risque d'être une vie sans saveur. À force de parler de l'au-delà, si je ne parle pas du présent, ma vie spirituelle risque d'être sans saveur et je risque de passer à côté de la rencontre avec l'autre. Et puis à l'autre extrême. Alors l'autre extrême, ce sont ceux qui ont dit « Oh, j'en ai tellement marre de ces chrétiens qui sont toujours dans le ciel à attendre que finalement moi je vais avoir les pieds sur la terre, je m'engage, je fais du social, je me préoccupe de mon prochain, je me préoccupe de mon voisin et des soucis et des difficultés de notre monde. » Mais alors, s'il n'y a plus encore cette dimension d'attente, cet engagement chrétien risque d'être un peu vide, comme une coquille vide. Donc nous sommes invités à articuler attentivement notre engagement et notre attente. Nous avons habituellement une représentation spectaculaire du royaume de Dieu. Pour nous, le royaume de Dieu doit venir d'une manière spectaculaire pour bouleverser le cours de l'histoire. D'ailleurs, vous savez, ce n'est pas propre aux chrétiens. Savez-vous que les musulmans ont une attente de cette nature-là? Connaissez-vous le Mahdi? Le Mahdi est un imam qui est censé venir à un moment crucial de l'histoire de l'humanité. C'est une attente à la fois sunnite et chiite, mais un peu différente suivant les courants. Pour les chiites, c'est un imam qui a vécu autour du 7e, 8e, 9e siècle, qui a été caché pour revenir à la fin des temps. Et la venue de cet imam, qui doit apporter la justice, la paix sur la terre, précédera la venue de Jésus chez les musulmans. Donc les musulmans attendent la venue de Jésus. Mais en fait, l'imam doit précéder la venue de Jésus. Si j'en parle, c'est que c'est une des clés pour comprendre ce qui se passe au Proche-Orient. Maintenant, au Proche-Orient, les religieux musulmans sont convaincus qu'ils sont à la porte de la venue de l'imam, du Mahdi, qui va solutionner tous les problèmes du Proche-Orient, évidemment, pour amener la justice selon la manière dont ils la conçoivent. Donc voilà, cette attente, elle est là. Elle est universelle. Mais revenons à notre parabole. Maître, dis-nous, est-ce que le royaume de Dieu va venir, est-ce qu'il est imminent? Voilà à quoi le règne de Dieu ressemble. Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Non mais franchement, maître, je t'ai posé une question claire. Pourquoi tu me réponds d'une manière aussi anecdotique, aussi parabolique? Eh oui, c'est le propre et la richesse des paraboles. Donc je suis livré simplement à méditer cette parabole et voir comment elle répond à ma question. Vous avez noté un homme qui plante une graine. Non mais voyons, maître, est-ce que tu as déjà vu un homme qui plante une graine? Maître, tu devrais savoir que ça n'existe pas, que tous les semeurs sèment à la volée. Franchement, et d'ailleurs les paraboles qui précèdent le disent bien, un semeur sorti pour semer à la volée, puis le grain est tombé partout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un homme qui a semé une graine. Pas très sérieux, ça. Bizarre. Mais enfin, Rabbi, tu devrais le savoir. Eh bien, oui. Alors, la graine de Senvé, c'est la toute petite que vous voyez là-haut. Vous voyez hein, la proportion, un clou de girofle, une noisette. Donc, ce n'est pas grand, une graine de Senvé. C'est tout petit. Alors, l'homme a semé une graine, et pas n'importe la graine, la plus petite, la plus insignifiante. Et cette graine, vous savez où elle est née? Elle est née dans une étable à Bethléem. Cette petite graine plantée en terre, née dans une étable à Bethléem, elle va germer, elle va donner un arbre. Alors, il faut prêter attention à cette petite graine. Dans nos sociétés, habituellement, on prête attention à tout ce qui est somptueux, magnifique, des palais, etc., des réussites sportives, et Dieu sait qu'on en parle ces jours, des réussites militaires, etc. Faites attention, il y a une petite graine qui est en terre. Et cette graine, moi je vous le dis, elle va donner un grand arbre. Et quand la Bible parle de grand arbre, elle se réfère à Deutéronome 4:12, qui annonce l'existence d'un grand arbre. À l'Apocalypse 22, ou à Ézéchiel 31 encore, qui nous parle de la venue d'un grand arbre. Et l'arbre symbolise vraiment le triomphe de l'œuvre de Dieu. Et tous ces oiseaux symbolisent tous les, en tout cas dans les textes de l'Ancien Testament comme dans le texte de l'Apocalypse, les oiseaux symbolisent toutes les nations qui viennent trouver refuge dans le grand arbre. Donc voilà, voilà le royaume. Une toute petite graine, personne n'aurait l'idée d'en planter une seule, mais je vous dis que cette petite graine, elle va donner un grand arbre. Je vous l'ai dit, pour les uns, le royaume, ce serait une réalité future qui nous est promise. Pour les autres, le royaume, c'est déjà présent dans le monde. Jésus n'est pas contre ces idées, certainement pas. Jésus soutient l'idée de la vie future. Jésus n'est pas non plus indifférent au problème de la justice dans notre monde, à la souffrance, aux soucis de l'autre. Mais pour lui, le royaume de Dieu, ce n'est pas un événement, ce n'est pas un lieu. Il n'est ni futur, ou bien ni présent, ou bien je devrais dire, il est à la fois futur et présent. Le royaume, ce n'est pas un état second dans lequel je me trouve quand je suis, je ne sais pas trop comment. Le royaume, c'est une attitude, c'est un état d'esprit. Le royaume, c'est un processus intérieur et extérieur. Le royaume, c'est un processus de création, de créativité, d'humanisation. Le royaume, c'est tout ce qui est là présent lorsque j'essaye de vivre quelque chose qui apporte de l'espérance, de la lumière, de la vérité, de la loyauté, de la beauté, de la relation entre les uns et les autres. Le royaume, il est là, nous pouvons le recevoir. Nous pouvons recevoir maintenant une touche de beauté, de loyauté, de fidélité, de noblesse, de gentillesse, d'amitié, de consolation, d'espérance. Mais le royaume, nous pouvons aussi nous y associer, parce que nous pouvons aussi apporter, nous, une touche de noblesse, de beauté, de fidélité et d'espérance. Voyez, le royaume, c'est une relation. Une relation avec Dieu. Une relation avec les autres. Donc le royaume, ce n'est pas un futur. Ce n'est pas seulement un présent. Ce n'est pas un événement cosmique. Il est là. Deuxième question. Seigneur, mais enfin, il nous arrive de nous décourager, il nous arrive de ne pas comprendre. Est-ce vraiment vrai tout ce que tu nous as dit? Est-ce que... Où est-il ce royaume? Montre-nous quelque part ce royaume. Alors Jésus redonne une autre parabole. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. À du levain qu'une femme a pris, introduit dans 3 quantités de farine, 21 litres de farine, jusqu'à ce que tout ait levé. Cette image parle principalement à la boulangère. Mais elle est un peu semblable à l'image précédente. Donc le levain, c'est une levure naturelle qui permet de faire monter la pâte. Il répond à cette question, mais Seigneur, où est-il? Montre-nous ce royaume. Ah bon, vous ne voyez pas les effets du royaume? Vous ne voyez pas? Au contraire, vous avez le sentiment que c'est l'inverse qui l'emporte? Vous avez l'impression que c'est le mal, la souffrance qui l'emporte? Eh bien, regardez le pain, regardez ce qui se passe. Et dans le pain, il se passe un phénomène étonnant. Il y a quelque chose d'invisible dont la puissance est immaîtrisable. C'est le levain. Une fois que vous avez mis du levain dans la pâte va gonfler. C'est immaîtrisable. Si Jésus connaissait les expériences que nous connaissons en Occident, il aurait pris un autre exemple. C'est l'exemple du gel. Je me souviens quand j'étais ingénieur en génie civil. Un jour, j'ai été appelé, quand j'ai repris mon travail le 4 janvier, je ne sais plus de quelle année, une année où il y avait gelé comme pas possible. Ça devait être dans les années 80, puisque j'étais encore chez Piguet. Eh bien, un collège que nous construisions à Lausanne s'était soulevé de 4 cm par le gel. Tout le collège s'était soulevé, toutes les soudures avaient sauté, parce que les piliers, on était en phase de construction, les piliers étaient remplis de gravier et d'eau, et pendant 15 jours de gel, toutes les soudures avaient sauté, Et tout le collège qui faisait 200 000 tonnes, j'en sais rien, quelque chose d'extrêmement lourd, s'était soulevé de 4 cm et je pouvais mettre mon doigt dessous et je grattais l'eau qui était sous les pieds. C'est ça le royaume de Dieu. Comme du levain, rien n'y fait contre le gel, rien n'y fait contre le levain. Le royaume de Dieu est là. Personne, nulle force ne peut s'y opposer. Avec la venue de Jésus, peu de choses ont apparemment changé. Et pourtant, la pâte lève, l'histoire n'est pas finie, 21 litres c'est grand, le royaume est invisible comme le levain, mais son travail et sa force sont indomptables. Bon, troisième question, maître, je veux bien, je suis convaincu de l'existence du royaume, mais alors maintenant j'aimerais le voir, où est-il ? Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ-là. Ce que les précédentes paraboles nous ont appris, c'est qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, qu'on le cherche ou non, qu'on y croit ou pas, il existe un trésor enfoui au plus profond de notre être, un trésor enfoui au cœur de l'humanité. Et moi, je n'ai pas peur de dire que c'est ce trésor, c'est le mystère de la présence de Dieu, le sens de la justice, de la vie, de la paix, de l'harmonie. Et ce sens-là, tous les êtres humains l'ont. C'est pour ça que je crois que cette graine de CNV, ce levain, il est vraiment dans la pâte de l'humanité. Tout être humain, il a ce sens de la justice, de la fidélité, de la loyauté, du respect d'autrui. Maintenant, est-ce qu'il le vit ? C'est une toute autre histoire. Mais ce sens-là, il vient vraiment de Dieu. C'est la trace de Dieu au cœur de l'humanité. Et cette humanité appartient à Dieu. Mais alors, comment voir où est-il ce royaume ? Alors Jésus répond. Et il répond de cette manière-là. Et il répond de la manière suivante, que je vais tout de suite vous passer, et on va articuler ces deux paraboles. Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un marchand qui cherchait de belles perles, ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Ça répond à la même question. Il y a manifestement de ces deux paraboles une répétition. Il faut croire que Jésus trouvait utile cette répétition. D'ailleurs, elle est bien utile parce que elle rejoint deux métiers, deux corps de métier ou de représentations différentes. Ici, on est dans une représentation du joaillier, de celui qui cherche des pierres précieuses. On dit que les perles sont les plus précieuses, les perles les plus précieuses que l'Antiquité considérait comme les plus précieuses au monde. Mais dans les pierres précieuses, on sait très bien qu'il y a des diamants, des émeraudes, des rubis, des saphirs. Ce qu'il y a d'étonnant dans la perle, c'est que la perle est en fait d'une double origine, puisqu'elle est d'abord d'une origine minérale transformée par du végétal. Non, par de l'animal, pardon. Il y a du minéral plus de l'animal. Donc, elle est doublement le fruit de la nature dans toute sa richesse. Alors, voilà. Jésus montre où est ce royaume et comment le trouver. Alors, il y a un dénominateur commun entre ces deux textes. Est-ce que vous le repérez ? Je le relis. Ayant trouvé une belle perle, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Et puis avant, alors, il y a deux mots identiques, c'est vendre. Vendre tout ce qu'il a pour l'acheter. Vendre tout ce qu'il a pour l'acheter. C'est les mots semblables qu'il y a dans ces deux paraboles. Et ça nous montre que le royaume est dans le geste de l'acquéreur. Le royaume est dans le geste de l'acquéreur. Le royaume est dans l'attitude, la disposition du cœur de celui ou de celle qui veut s'engager jusqu'au bout pour découvrir ce royaume et se l'approprier. Le royaume est dans l'attitude du cœur du disciple. Il n'est pas dans un événement que l'on va subir. Souvent, on crève un événement qui va quelque part nous forcer à être des super chrétiens. Si je trouve enfin la bonne église, si je trouve enfin le bon événement, je vais devenir enfin le super chrétien. Rien de tout ça. C'est dans le geste de l'acquéreur que se trouve le royaume de Dieu. Alors, je me suis dit, mais j'aimerais tellement trouver une image du royaume. Cette image du royaume, j'ai eu le privilège de la photographier ce printemps. C'est, j'étais à Amman. J'étais à Amman, nous célébrions les rameaux dans une église catholique, une église latine, et juste à côté de moi, cette jeune femme en prière. Alors elle ne dit pas tout, mais ce geste de prière, ce geste d'intériorité, ce geste vraiment de... Ah, la photographie l'illustre tellement mieux que moi. Pour moi, c'est vraiment une illustration du royaume. Mais il me faut aller de l'avant. On arrive déjà à la fin de la journée, vous voyez que le temps passe vite ensemble. Le soleil va bientôt se coucher. Bientôt, les pêcheurs vont partir sur le lac pour pêcher. Le maître arrive à la fin de son enseignement. Mais il reste quand même deux questions importantes dans l'esprit des gens. Mais c'est bien, tu nous as dit beaucoup de choses sur le royaume. Maintenant, on sait qu'il existe un peuple de Dieu. Tu nous parles des fils du royaume. Alors ce peuple de Dieu, où est-il? Où est la frontière entre ceux qui font partie du peuple de Dieu et ceux qui n'en font pas partie? Ça, c'est une question récurrente, parfois un dada de certains ecclésiastiques. Mais souvent, l'ensemble des chrétiens aiment bien se confronter à ces questions, mettre des frontières. En tout cas, c'était l'attitude des pharisiens. Oh là 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 là, les frontières des pharisiens. Vous savez que pharisien veut dire séparé. L'étymologie de pharisien, c'est séparé. Donc, on met des frontières, le maximum, le plus de frontières que possible pour être séparé, le plus de monde que possible, pour finalement ne rester qu'entre nous, peut-être moi tout seul, et moi, je serai l'élu du royaume. Bien, donc on met des critères, on définit des frontières entre dedans et dehors. Quelle est la réponse de Jésus à cette redoutable question? Ah, pardon. Quelle est la réponse de Jésus à cette redoutable question? Un filet jeté dans la mer. Le geste du pêcheur. Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un filet jeté dans la mer qui rassemble des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied. On recueille ce qui est bon dans des récipients et on jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront, séparer les mauvais du milieu des justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà. Merci Seigneur pour la réponse à notre question. Enfin, je sais qui en fait partie, qui n'en fait pas partie, et quelles sont les frontières du royaume. Cette fois-ci, alors, c'est évident, Oui, je vois bien. Ah, attendez, non. Non, peut-être pas sûr, mais enfin bon, on va réfléchir. Bref, je repère dans cette parabole trois temps. Et ça, c'est très important. Trois temps. Tout d'abord, le présent. Le royaume de Dieu est semblable à un filet jeté dans la mer. Vous êtes d'accord? C'est le présent. Un filet qui est maintenant jeté dans la mer. Un deuxième temps, à un moment donné, le filet est rempli. Alors on va le tirer sur le rivage. Manifestement, ce temps n'a pas encore eu lieu. Ce temps n'a pas encore eu lieu, c'est évident. Personne d'entre nous ne peut dire « aujourd'hui, le royaume est complet, le filet est rempli ». D'ailleurs, personne d'entre nous n'a envie de dire que le filet est rempli. Parce que vous avez tous envie de dire, mais j'aimerais que mes enfants y rentrent dans le filet, j'aimerais que mon oncle ou ma tante rentre dans le filet, puis moi j'aimerais encore vivre deux ou trois choses, deux ou trois belles années sur la terre, puis après j'entrerai dans le filet. Donc personne des auditeurs de Jésus n'aurait eu l'idée de dire, maintenant le filet est rempli, je veux mourir dans la seconde qui suit. Non. Donc ça, ça vient pour après. Donc, à un moment donné, le filet sera rempli et on va le tirer sur le rivage. Sachez que dans les Écritures, le « on » est toujours un pluriel de majesté qui est attribué à Dieu. Troisième temps, le tri, la séparation des bons et des mauvais. Les anges s'en iront séparer les bons et les mauvais et jetteront les uns d'un côté et les autres de l'autre. Je trouve magnifique cette parabole, elle nous explique tout. Nous sommes maintenant dans le temps de jeter le filet. Ça nous concerne. Ce qui viendra après, ça concerne d'abord Dieu, puisque le 11 est un pluriel de majesté, et puis ça concerne les anges. Ah, comme ça me fait du bien de savoir que je ne suis pas concerné par la séparation que trop souvent les gens se font entre les justes et les injustes, entre les sauvés et les perdus, entre les justes, les bons et les méchants. Oh là là, je connais des gens qui sont vraiment tourmentés affectivement par cette terrible question. C'est une question anxiogène qui veut vraiment essayer de définir si je me trouve d'un côté ou d'un autre. C'est Dieu seul qui aura l'exclusivité de cette séparation. C'est Dieu seul qui va faire le tri. Maintenant, nous sommes de ceux qui sont attachés au royaume et qui mettent toute notre énergie à jeter le filet. Et puis ceux qui sont alors considérés comme les justes de la parabole, on devrait plutôt dire les justifiés, car il est clair que notre propre justice est sans valeur pour Dieu, seule notre justification. Le regard bienveillant de Dieu nous justifie. Eh bien oui, ceux-ci, ils seront séparés des autres. Pour les autres, leur attachement au royaume n'aura été que superficiel. Des transfuges, juste en transit dans le filet, ils seront rejetés à la mer, rejetés d'où ils viennent. Et il y a là cette terrible image du feu, des pleurs, des grincements de dents, qui sont des figures classiques dans les textes bibliques pour souligner le caractère irréversible de cette fin tragique, qui consiste à être éloigné du royaume. D'ailleurs, comme le disent beaucoup de commentateurs, c'est nous-mêmes, les êtres humains, qui arrivons très très bien à nous détruire nous-mêmes. Tout homme qui sera détruit à la fin des temps se sera détruit lui-même. Mais c'est vrai, comme je l'ai dit, c'est très anxiogène d'imaginer ce genre de tri parce que, en fait, nous ne comprenons pas les critères de jugement. Nous ne comprenons pas l'identité profonde du juge. Nous ne comprenons pas que Dieu, qui est le juge suprême, Dieu, merci, j'allais dire, que Dieu est fondamentalement miséricorde et compassion. C'est son identité profonde. Dieu n'a jamais été touché, ne serait-ce qu'effleuré par le mal. Et je vous rappelle que à la fin et même avant le jugement dernier, le mal aura été anéanti. Le mal aura disparu. Et nous savons bien que si le mal nous contamine pareillement, c'est parce que nous sommes souvent tous des marionnettes manipulées par le mal, par leurs passions, leurs hormones qui s'infiltrent partout. Mais quand le mal aura été entièrement anéanti, je vous laisse terminer la question. Notre seule responsabilité maintenant, c'est vraiment jeter le filet. Alors c'est vrai que cette dernière parabole a laissé planer un silence interrogateur sur les auditeurs. Nous sommes toujours au bord du lac, mais il commence à se faire tard. Les premiers pêcheurs sont repartis, le soleil est définitivement couché. Il laisse derrière lui un ciel radieux, sans nuages. Il faut mettre un terme à l'enseignement et laisser aller la foule. Finalement, le maître se lève, il ramène la barque sur la berge et il leur demande, comme pour s'assurer que son message est bien clair, Avez-vous compris tout cela ? Ils disent oui. Néanmoins, il reste une grave question. Il reste une grave question. L'enseignement de Jésus est tellement révolutionnaire. Est-ce que ce royaume, nous allons réellement devoir nous-mêmes être révolutionnaires pour entrer dans ce royaume ? Est-ce que le royaume des cieux se trouve dans la nouveauté et non pas dans la tradition ? Est-ce que le royaume, c'est chez les pharisiens ou chez les zélotes ? Est-ce que le royaume, c'est chez les zélotes ou chez les sadducéens ? Est-ce que le royaume, c'est dans les églises émergentes ou les églises traditionnelles ? Est-ce que le royaume, c'est chez ICF, CCC, Gospel Center ou à Villard ? Est-ce que le royaume est à Villard ou à l'église protestante ? Est-ce que le royaume est à l'église protestante ou à l'église catholique ? Est-ce que le royaume est à l'église catholique ou à l'église orthodoxe ? C'est curieux, on est toujours dans l'alternative. On a une drôle de tête. Pour nous, on voit toujours les choses en noir et blanc ou en vert et rouge. Évidemment. Ah oui, j'ai brûlé un feu rouge ce matin. Liliane était d'une colère pas possible. Elle m'a dit, mais si tu dois passer au vert. Oui, vert et rouge. Elle avait raison. Elle avait parfaitement raison. Mais c'est comme ça. Personne ne pense la nuance. Personne ne dit, en Turquie, je me souviens qu'il passait au feu rouge allègrement. Mais ça, c'était il y a longtemps, il y a plus de 20 ans. Puis j'ai demandé au chauffeur. Et il m'a dit, pour nous, le feu vert et le feu rouge, c'est une alternance de priorité. Quand j'ai le feu vert, j'ai la priorité. Quand j'ai le feu rouge, je passe, mais sans priorité. Mais c'est pas idiot! Quand vous roulez à 2h du matin sur des routes où il n'y a personne, c'est agréable de se présenter un feu rouge, on freine un peu, on regarde, il n'y a pas une autre voiture, on passe. Et ça nous a servi, ça nous a évité de perdre un avion, de rater un avion, ça. Bon, parenthèse fermée. Donc nous sommes toujours dans le blanc, le noir, le rouge et le vert. Mais Jésus n'est pas dans cette alternative. Jésus est dans l'inclusif. Le royaume est à la fois chez les pharisiens et chez les zélotes, à la fois à Villard et à ICF, à la fois chez les protestants et chez les catholiques, à la fois chez les catholiques et chez les orthodoxes. Il est dans les deux parce qu'au fond, il est ni chez les uns ni chez les autres. Le royaume reste insaisissable, il reste cette propriété du Seigneur. Ah, il faudrait que je la mette, cette parabole. Voilà. Il leur a dit, c'est pourquoi tout scribe instruit du règne des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Quand j'ai médité cette parabole il n'y a pas longtemps, ça m'a bouleversé. Que Jésus nous dise très clairement, vous êtes construit par ce que vous héritez d'ancien et vous êtes construit par ce que vous vivez de nouveau, de moderne et de dynamique. Le royaume, il est dans le nouveau, le moderne et le dynamique. Le royaume, il est dans l'ancien, la tradition et les choses plus paisibles et plus calmes. Partout, vous allez voir des indices du royaume de Dieu. Alors j'ai mis comme image des figures paradoxales, bien sûr, mais j'aurais dû mettre plutôt comme image des églises. Une église orthodoxe et puis une église plus moderne. Enfin voilà, je termine par ces figures paradoxales. Ah, elle est partie. Reviens. Voilà. Voilà. C'est des figures paradoxales, des richesses anciennes et des richesses nouvelles. Mais sur ces figures, mettez des églises anciennes et des églises nouvelles. Et c'est cela que Jésus veut nous enseigner. Merci, Seigneur, pour ces 6 paraboles qui affinent notre discernement. Merci Seigneur pour ces 6 paraboles qui sont là pour ouvrir les yeux de notre cœur, découvrir les traces de ta présence afin de devenir de meilleurs disciples. Amen.